Bonjour mesdames et messieurs. Je vais donc vous présenter une synthèse extrêmement résumée de la grande enquête qui a été conduite en 2006 par le CNET. Cette enquête a des dimensions médicales dont l'importance justifiait qu'elle soit rapportée devant vous. Donc ce questionnaire a été administré aux curistes pendant la saison thermale 2006. Il a été d'abord mis au point au titre d'une phase expérimentale qui s'est déroulée à Bagnoles de l'Orme. Il a été ensuite mis à disposition des curistes dans les stations thermales du CNET. 300 000 exemplaires ont été mis à disposition, 112 000 ont été retournés à la grande société d'opinion publique spécialisée dans le domaine médical. Ce questionnaire était un questionnaire fermé et l'importance même de l'échantillon a permis le travail mathématique de ce qu'on appelle le lissage, qui fait que les résultats sont représentatifs de l'activité thermale française. Voilà comment se présentait ce questionnaire, donc 14 questions fermées, avec pour un certain nombre de questions, plusieurs possibilités de répondre. Je vais donc vous présenter maintenant la synthèse de l'essentiel des réponses. D'abord des données épidémiologiques sur lesquelles je ne m'appesantirai pas, puisque ce sont des choses que nous connaissons tous, des curistes en majorité femmes, en majorité au-delà de 60 ans, en majorité inactifs, un chiffre intéressant, 17% de primo-curistes, c'est-à-dire qu'un curiste sur 6 est un primo-curiste. Pour ce qui est des motifs de cure, si vous faites les additions, ils vont au-delà de 100, puisque à peu près entre 30 et 40% des curistes font un traitement pour une double orientation. L'orientation en rhumatologie vient bien entendu en tête, suivi des voies respiratoires, de la phlébologie, du métabolisme, de la dermatologie, des maladies cardio-artérielles, etc. Élément intéressant, demander aux curistes de dire qui était à l'origine de la proposition de cure. Et la surprise a été que très majoritairement, pratiquement 70% des curistes ont exprimé le fait que c'était un médecin, leur médecin de famille ou le spécialiste qui les traitait, qui était à l'origine de cette proposition thérapeutique, les propositions personnelles ou de l'entourage venant avec une fréquence bien inférieure. La première question intéressante sur les résultats était d'identifier les résultats de la cure que les curistes venaient d'effectuer. Et ils nous disent qu'avant tout, ils ont moins de douleurs physiques et qu'ils prennent moins de médicaments. Donc la cure, c'est fondamentalement une thérapeutique qui agit sur la douleur physique. Deuxième question qu'on leur posait, puisqu'il n'y avait que 16% de primo-curistes, c'était « Vous avez déjà fait une cure thermale. Avez-vous observé, à l'issue de cette cure thermale, un effet durable ?» Et un effet durable, c'est quoi? C'est un effet qui dure au moins 6 mois. Eh bien, à cette question toute simple, la réponse a été avec une importance que je qualifierais digne d'un référendum au temps de feu l'Union soviétique, hein, 97% de oui. Donc, pour 97% des patients, le bénéfice de la cure s'est manifesté pendant une durée de temps importante d'au moins 6 mois. C'est essentiel puisqu'il s'agit fondamentalement de patients porteurs d'affections chroniques. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les mêmes choses, moins de douleurs physiques pour 3/4 d'entre eux, moins de médicaments, c'était 50%, c'est 57%, moins de consultations médicales et meilleure qualité de vie ou satisfaction de vie. Donc, une efficacité sur la douleur physique avec des conséquences sur la consommation de biens de santé et une efficacité durable. Ces éléments ont d'ailleurs été confortés aussi bien par l'étude de StopTAC que par l'étude Thermarthrose. La suivante. Puisque c'était une thérapeutique perçue comme analgésique, il était donc intéressant de leur dire, eh bien, pour calmer la douleur, vous venez de bénéficier de la cure thermale, mais vous prenez des médicaments. comparer la puissance analgésique des uns, les médicaments, avec l'autre, la cure. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ben, il y a 5% qui nous disent, ben, je suis désolé, mais les médicaments, c'était plus efficace. 5%. C'est pas beaucoup. Par contre, ils sont 49% à dire que la cure a été aussi efficace que les médicaments. Et élément, je dirais, encore plus surprenant, ils sont 46% à juger que la cure a été plus efficace que les médicaments pour calmer leur douleur physique. On leur demandait de caractériser le traitement thermal. Il y avait 4 possibilités de réponse et vous voyez que c'est quelque chose un petit peu à la Prévert, ce qu'ils vont sélectionner. Mais l'élément le plus important, c'est que, avant tout, c'est une thérapeutique qui leur apparaît naturelle. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Ensuite, ils identifient bien que ce n'est pas une médecine alternative. Médecine alternative, 14%. Non, non, on n'est pas dans la gourou-thérapie, on est dans la vraie médecine, une médecine complémentaire pour 55% d'entre eux. Et le fait que cette médecine soit remboursée par la Sécurité sociale contribue évidemment à établir ce statut de dimension sanitaire complète. Soulagement de la douleur, utilisable à tous les âges, peu d'effets secondaires, sont également des éléments qui sont cités souvent. En synthèse, les curistes posent sur la nature de la cure un regard réaliste et pertinent. On leur demande, en dehors du traitement thermal, qu'est-ce qui va jouer ? Et il est clair que le séjour thermal, avec son environnement, est important pour 6 curistes sur 10. Mais le traitement thermal reste, pour la moitié des curistes, le fondement essentiel du traitement. S'agissant de personnes âgées, on ne s'étonnera pas que le lien social soit mis en avant, de la même manière que les patients nous disent que l'éducation à la santé est quelque chose qu'ils attendent dans le cadre de la médecine thermale. Éducation à la santé et surtout éducation thérapeutique, on leur a proposé, c'est la suivante, un certain nombre de thématiques et nous verrons quelles sont leurs réponses. Mais on s'est interrogé sur la question de savoir si les soins thermaux, en particulier en termes de durée, tels qu'ils étaient organisés à l'heure actuelle, correspondaient véritablement à leurs besoins. Eh bien là, il n'y a qu'une 16%, un curiste sur 6, qui nous dit que la cure, dans son formatage actuel de 3 semaines, 18 jours, correspond pleinement à ses besoins. Pour 3/4 d'entre eux, ils souhaitent pouvoir avoir une durée de traitement qui soit mieux adaptée à leurs besoins de santé et probablement également à leurs contraintes sociales. L'éducation du patient, donc nous l'avions annoncé, a été pointée par les curistes et il n'y a que 4% des curistes qui ne sont absolument pas intéressés et ils sont 93%, là aussi, hein, une majorité quasiment de type soviétique, pour nous dire qu'ils souhaitent des actions d'éducation du patient. Quelles sont ces actions? Le mal de dos, ça ne nous étonnera pas. L'activité physique adaptée. Et il est vrai que les divers plans de maladies chroniques, comme également le plan national nutrition santé, ont mis l'accent sur l'activité physique adaptée. Donc, les patients sont demandeurs. Les problèmes de nutrition vont dans le même sens. Les maladies cardiovasculaires. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que les curistes sont des personnes du troisième âge en majorité, dont le caractère spécifique à ces âges-là, des problèmes de mémoire, des problèmes de chute, sont également pointés. Vous ne vous étonnerez pas que 99% des curistes jugent justifier le remboursement par la Sécurité sociale. Et ils sont 98% à se déclarer prêts à se mobiliser pour défendre ce remboursement, mais sur la nature et la force de cette mobilisation, on peut quand même laisser planer quelques interrogations que l'enquête a eu la sagesse de ne pas envisager. Alors, en conclusion, cette étude était destinée à identifier les besoins du patient. Et clairement, le patient nous dit la médecine thermale, c'est une médecine complémentaire. C'est une médecine qui me permet de gérer ma douleur physique ou chronique, qui me permet de consommer moins de biens de santé et qui a toute sa place dans l'arsenal thérapeutique, dans le panier de soins qui doit faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie. Le message, il est extrêmement clair. Il nous passe également deux autres messages qu'il faut savoir entendre. Un, nous sommes dans une attente d'une offre de soins enrichie, en particulier dans le domaine de l'éducation thérapeutique. Nous sommes dans l'attente également, pour 5/6 des curistes, d'une possible adaptation de la durée des soins à leur situation particulière. Et si l'on regarde cette enquête du point de vue du monde de la médecine thermale, elle nous dit que la légitimité de la médecine thermale dans la prise en charge de la douleur chronique est très forte, car ce travail, qui est un travail scientifique, c'est une expression, bien sûr, des patients, mais l'importance même de la réponse, le travail mathématique qui a été fait pour le rendre représentatif en fait une donnée scientifique incontournable, légitime cette aspiration confirmée par les travaux scientifiques qui ont été conduits, et Thermarthrose, qu'on nous présentera tout à l'heure, l'illustrera parfaitement. Le deuxième élément, c'est que la médecine thermale a une légitimité par rapport à la demande exprimée par les patients curistes à mettre en œuvre des actions d'éducation thérapeutique. Et nous avons eu, il y a quelques jours, une réunion à Paris dont il vous a été parlé dans les diverses réunions qui ont eu lieu hier sur la chronicité et la médecine thermale. Et à l'issue de cette réunion, moi j'ai identifié trois choses qui forment un trépied très fort sur lequel la médecine thermale peut s'appuyer. Les deux premières choses sont des choses que nous savions. La médecine thermale, la cure, ça offre du temps pour l'éducation thérapeutique. Or, l'éducation thérapeutique, elle ne peut pas se faire sans temps. Le deuxième élément, c'est que la médecine thermale, beaucoup plus que ce que vous imaginez, parce que vous y êtes habitué, c'est un moment où il y a un très grand nombre de patients en même temps, dans un même lieu, avec une même pathologie. Si vous allez dans un service de diabétologie, dans un CHU, un grand service, il y a quoi? Il y a 20 diabétiques, il y a 30 diabétiques en même temps, au grand maximum. Dans une grande station thermale qui s'occupe de diabète, vous allez avoir en même temps 200, 300 patients. Et ce grand nombre permet d'imaginer, de construire des groupes thérapeutiques homogènes, qui sont des éléments fondamentaux pour entreprendre une éducation du patient. Et le troisième élément, qui est ce qui m'a le plus intéressé dans ce qui s'est échangé la semaine dernière, c'est que les spécialistes de l'éducation thérapeutique nous ont dit une chose, qui est une chose fondamentale. Un message d'éducation du patient, s'il est délivré isolément, ne passe pas. Pour qu'il passe, il faut qu'il soit porté par un vecteur. Ce vecteur, ça doit être un autre élément de prise en charge, mais un élément de prise en charge dans lequel la confiance du patient est forte. Or, la médecine thermale est une prise en charge dans laquelle les patients qui font des cures ont une très grande confiance, parce que si ça n'était pas le cas, ils ne s'infligeraient pas les difficultés du déplacement et des dépenses de la cure. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce travail, dont l'importance scientifique, je pense, ne vous a pas échappé, et qui apporte des éléments forts pour fonder la légitimité de la médecine thermale dans le domaine de la prise en charge des malades chroniques. Je vous remercie.
Pourquoi s'interroger sur le coût du thermalisme social, le coût réel, le coût net du thermalisme social? Eh bien parce que nous savons tous que le thermalisme est un secteur d'activité, que ce secteur d'activité génère des flux économiques au plan national. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas ce qu'est la dimension de ces flux économiques, et pourtant on a un intérêt majeur à les comprendre et à pouvoir en faire état auprès de notre environnement pour défendre l'activité et confirmer des intuitions que nous avons. Cette intuition, l'intuition majeure, c'est que le thermalisme coûte de l'argent à notre système, il en rapporte également grâce à l'activité qu'il génère, et que le rapport entre les deux mérite d'être étudié, le rapport entre les ressources et les dépenses mérite d'être étudié lorsqu'on s'interroge sur la légitimité de maintenir cette médecine dans le système de santé publique. Alors, pour approcher ce que sont les coûts et les ressources liées à l'activité du thermalisme social, on n'a pas aujourd'hui de données qui existent, donc il fallait s'interroger sur une méthode. Et cette méthode, elle s'appuie ici sur l'utilisation des agrégats nationaux, des ratios nationaux qui sont connus et qui permettent d'approcher les problématiques macroéconomiques. Alors, je précise que nous ne sommes pas là dans le cadre d'une approche médico-économique, c'est-à-dire que l'aspect médical n'est pas du tout concerné par cette approche. Nous sommes là dans le cadre d'une approche macroéconomique. Les objectifs de cette approche, c'est de comparer donc les coûts sociaux et fiscaux du thermalisme social avec les ressources, donc les contributions aux budgets sociaux et fiscaux apportés par l'existence du thermalisme social. Pour effectuer cette approche, donc, je l'ai dit, nous utilisons des agrégats nationaux qui sont connus, et notamment une notion qui existe au plan macroéconomique, qui est celle du produit intérieur brut, en essayant d'en faire une réduction pour ne concerner que les éléments qui entrent dans l'activité du thermalisme, et je rappelle thermalisme social, c'est-à-dire le thermalisme des cures remboursées par les régimes d'assurance maladie. Donc, approcher les coûts sociaux et fiscaux de ce thermalisme, approcher également les contributions en termes de produits intérieurs bruts de cette activité économique, de ce secteur d'activité économique. Du côté des recettes, c'est-à-dire du produit intérieur brut, entre guillemets, thermal, comment on l'approche ? Eh bien, en utilisant la définition qui est la définition de l'INSEE. Le produit intérieur brut est égal à la somme des valeurs ajoutées brutes des différents secteurs institutionnels ou des différentes branches d'activité, augmentées des impôts moins les subventions sur les produits. Ce que nous allons donc essayer de faire ici, c'est d'approcher le produit intérieur brut d'une seule branche d'activité, qui est celle du thermalisme social. Pour approcher ce produit intérieur brut, on doit déterminer ce qu'est la valeur ajoutée brute de chacun des postes de production de l'activité thermale, et nous disposons au plan national, grâce à l'INSEE, des ratios qui permettent de qualifier chacun de ces postes de produits. Dans ce produit intérieur brut thermal, on va faire entrer toutes les consommations finales des curistes, toutes les consommations finales qui sont générées par les cures thermales remboursées par la Sécurité sociale. Donc toutes les dépenses occasionnées par la cure, les dépenses qui sont engagées par les curistes, mais aussi par leurs accompagnants, ça fait partie de l'activité, les dépenses qui sont engagées depuis le départ du domicile jusqu'au retour au domicile, incluant donc les transports pour se rendre dans la station, mais aussi tous les postes de dépenses qui sont liés au séjour dans la station thermale, c'est-à-dire les hébergements, la restauration, les services, les loisirs, vous connaissez tout ça par cœur. Pour évaluer chacun de ces postes de dépenses et de consommation finale, on n'a évidemment aujourd'hui pas de statistiques qui soient structurées au plan national. Donc on doit partir d'enquêtes qui ont pu être réalisées dans certains domaines et aussi de constatations ou de données dont dispose la profession et notamment le Conseil national des exploitants thermaux. À partir du moment où on aura pu estimer chacun de ces postes de dépenses en valeur donc TTC, on pourra appliquer les taux de valeur ajoutée qui sont déterminés par l'INSEE et qui sont caractéristiques de chacune de ces types de dépenses. Donc voilà pour ce qui concerne le produit intérieur brut thermal, le résultat de cette approche macroéconomique. Vous avez donc dans ce tableau la liste des grands secteurs d'activité concernés par les cures thermales. Vous y voyez les activités thermales. Alors, activités thermales et de thalassothérapie. La thalassothérapie est là parce qu'elle fait partie pour l'INSEE de la même catégorie de détermination du taux de valeur ajoutée et c'est le même code d'activité. Donc on trouve aussi dans les dépenses thermales les dépenses d'hôtellerie, de tourisme avec restaurant, les dépenses de location de logement, les dépenses de camping, il y a aussi quelques campings qui hébergent des touristes, les dépenses de restauration, les dépenses de transport et les dépenses de services et de loisirs. C'est dans la première ligne, activité thermale, qu'on va mettre le chiffre d'affaires médical généré par les cures thermales, c'est-à-dire à la fois le coût des soins et le coût des honoraires médicaux et le coût des professions paramédicales qui exercent dans les stations. Vous avez donc en colonne le code de l'activité INSEE, le taux de valeur ajoutée médian de l'activité, c'est le ratio qui est utilisé ensuite pour qualifier chacun des chiffres d'affaires de chacune de ces branches de dépenses, donc la colonne production thermale pour le secteur. Alors évidemment, vous n'avez pas le détail de la détermination de chacune de ces sommes. Vous voyez par exemple pour les activités de soins et les activités médicales 328 millions d'euros, c'est le total. C'est le coût total des dépenses médicales engagées par les curistes à l'occasion de leur cure thermale. Donc c'est un calcul qui est fait à partir du prix des forfaits, donc en prenant les statistiques des caisses nationales d'assurance maladie, le nombre de curistes, un calcul qui est assez fastidieux, mais qui aboutit à ce chiffre-là d'une façon relativement vérifiable. Évidemment, pour un certain nombre de dépenses, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit procéder par des estimations moyennes, puisqu'on n'a pas d'enquête exhaustive sur ce que pourrait être, par exemple, la dépense d'hébergement réelle des 500 000 curistes et de leurs accompagnants qui vont en station thermale chaque année. Lorsqu'on applique à ces chiffres d'affaires les taux de valeur ajoutée moyens qui sont donc donnés par l'INSEE en fonction de chaque type d'activité, on obtient la valeur ajoutée produite par l'ensemble des dépenses de consommation finale engagées à l'occasion des cures thermales. Vous voyez que ce total, il est le total donc de PIB, c'est-à-dire de la valeur ajoutée dégagée par les cures thermales, de 444 millions d'euros ici, avec un taux moyen de valeur ajoutée sur le secteur d'activité, pour toutes les dépenses confondues, de 53%. Sur ce PIB thermal, produit intérieur brut thermal, vous savez tous, même si vous n'êtes pas des grands économistes, on vous parle en permanence du taux de prélèvement obligatoire appliqué à l'économie française, dont tout le monde se plaint en permanence, qui a tendance à dériver depuis les 30 glorieuses. Et ce taux de prélèvement obligatoire, c'est ce qui s'applique au PIB national. Donc c'est aussi ce qui s'applique au PIB de branche, c'est-à-dire le PIB thermal. Il est arrêté ici à 42,8%, puisque c'est le chiffre qui était donné pour 2008 par l'INSEE. Donc si on applique ce ratio, je suis désolé, c'est beaucoup de chiffres, mais si on applique ce ratio de prélèvements sociaux et fiscaux au PIB thermal, on obtient une contribution du secteur d'activité aux budgets sociaux et fiscaux de 190 millions d'euros. C'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est celui qui est dans la colonne des produits générés par l'activité thermale. Pour ce qui concerne les coûts de cette activité, c'est-à-dire la charge qu'elle représente pour les budgets sociaux et fiscaux, eh bien on doit faire le même travail d'inventaire. D'abord en déterminant un périmètre. Qu'est-ce qu'on va considérer comme les coûts sociaux et fiscaux du thermalisme? Eh bien, évidemment, toutes les contributions des régimes sociaux obligatoires qui prennent en charge les dépenses médicales des curistes, donc essentiellement des dépenses d'assurance maladie, aussi des dépenses fiscales liées à l'activité thermale, puisque les stations thermales bénéficient de temps en temps, pas assez à leur goût, mais de subventions pour leur permettre de se développer et d'investir. Et il y a une donnée qui est difficile et que je n'ai pas intégrée dans cette approche, qui est celle de l'augmentation des dotations globales de fonctionnement qui sont données aux stations touristiques. On en a amplement parlé hier dans une autre réunion, vous savez que les stations thermales sont, bénéficient de plus de dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire du budget donné par l'État à population égale que les villes qui ne sont pas des villes thermales, en raison des dépenses supplémentaires qu'elles sont obligées de consentir pour accueillir les curistes pendant la saison. Alors ça, c'est un chiffre qui n'est pas inclus dans cette étude, mais qui devrait rester relativement marginal. Pour évaluer ces coûts sociaux et fiscaux, eh bien, on a des statistiques qui sont produites par les caisses d'assurance maladie. Là, c'est assez facile. Et pour ce qui concerne les subventions accordées aux stations thermales, on dispose d'une étude qui avait été publiée récemment et qui avait été faite par la Fédération thermale et climatique et par le cabinet d'étendre consultant et qui avait recensé toutes les subventions de 1989 à 2003 qui avaient été encaissées par les stations thermales. Donc ça nous permet de sortir une moyenne. Voilà donc en synthèse le tableau de ces coûts sociaux et fiscaux. Vous voyez ici le calcul des remboursements qui sont délivrés au titre des honoraires des médecins et au titre des forfaits de soins thermaux, et puis en dernier lieu les subventions qui sont accordées aux stations thermales. Alors vous voyez que le taux moyen de remboursement sur le chiffre d'affaires des médecins ou sur le chiffre d'affaires des établissements thermaux, il ne tombe pas juste, il n'est pas de 65% comme on pourrait s'y attendre, parce que parmi les remboursements, vous avez des remboursements au taux normal, 65%, mais vous avez aussi des dépenses qui sont remboursées à 100% lorsque les curistes sont notamment en ALD. Donc vous avez là aussi un taux moyen de prise en charge des dépenses médicales qui est donné par des statistiques de la CNAM. Au total, un coût social et fiscal de 248 millions d'euros. Vous vous souvenez que tout à l'heure, on avait une production du secteur qui s'élevait à 190 millions d'euros. On compare le coût de notre activité pour les budgets fiscaux et sociaux, 248 millions, le produit de notre activité pour les mêmes budgets qui est 190 millions. Au total, le thermalisme social représente un investissement fiscal et social pour la collectivité de 60 millions d'euros, c'est-à-dire environ 120 euros par cure. On est donc loin du coût brut qui est annoncé et on est donc à 120 euros pour 18 jours de traitement avec tous les effets que par ailleurs on connaît sur la santé. Alors il s'agit là d'une approche du coût net de l'activité en considérant qu'elle existe. Il reste un travail à effectuer qui serait le coût de la disparition de l'activité. Mais bon, je touche du bois, on n'est pas à la veille de devoir faire ce travail, mais gardons présent à l'esprit que le coût, alors là, pour la collectivité, serait évidemment bien supérieur.
Je voudrais particulièrement remercier les organisateurs de ces journées d'automne de m'avoir invité à venir présenter cette enquête qui a été réalisée au printemps 2009 par Fibromyalgie France en partenariat avec le CNET. Elle avait pour objectif de mesurer la perception qualitative et les attentes des fibromyalgiques à l'égard des cures thermales. Elle fut déposée en ligne sur notre site internet pendant 2 mois. La participation à cette enquête était parfaitement anonyme et comportait 2 volets. Un questionnaire destiné aux fibromyalgiques ayant déjà effectué une cure, nous avons eu 127 réponses, et une autre destinée aux fibromyalgiques n'ayant jamais effectué de cure, 252 réponses. Le premier volet s'intitulait « Vous avez déjà effectué une cure thermale, vous avez au moins une expérience de cure pour fibromyalgie ou pour toute autre pathologie. » Qui sont les 127 répondants curistes? Sur les 127 réponses obtenues, ça fonctionne, 93 émanaient de femmes, dont 86 avaient entre 40 et 60 ans, la plus grande proportion se situant toutefois dans la tranche de 50 à 60, 57 réponses. Quel est leur statut social? Concernant le statut social des répondants, on constate que 57% de fibromyalgiques étaient en position d'inactivité, soit étaient retraités, au chômage, femmes ou hommes au foyer, entre autres. Il est à noter que 15 étaient en invalidité totale. Allez-y. Quelles indications de cure pour les 127 répondants? 106 fibromyalgiques sur 127, soit 83,5%, avaient déjà fait une cure pour fibromyalgie, et 47 pour une autre pathologie, soit 37%. On constate que la moyenne des cures effectuées est de 2,2%. Ainsi, 63 d'entre eux ont eu une expérience de cure uniquement dans le cadre spécifique de la fibromyalgie. Quels ont été les facteurs d'incitation à la cure? À la question de savoir quels ont été ces facteurs d'incitation, on peut voir que ces cures étaient préconisées à égalité par le médecin traitant 28%, sur demande du patient 29%, mais encore par le médecin spécialiste 20%. Quels sont les effets ressentis de la cure ? La question concernant les effets ressentis, et plus spécifiquement à plus de 6 mois, donne comme réponse que 57,5% considéraient qu'il n'y avait plus d'effet après 6 mois, alors qu'ils étaient encore bénéfiques pour 42,5% d'entre eux. Par ailleurs, 22% ressentaient la cure comme moins efficace que les médicaments, alors que 37,8% la ressentaient comme plus efficace, voire aussi efficace à 40%, par une amélioration de la douleur pour 27% d'entre eux, et une réduction de la consommation médicamenteuse antalgique pour 23%. On peut noter qu'une meilleure qualité de vie vient en troisième position, suivie par un meilleur sommeil. Quelle durée et quelle fréquence de cure souhaitée ? Concernant la durée et la fréquence de cure souhaitée, une large majorité de curistes souhaiterait bénéficier d'une semaine de post-cure à 52%, presque 2 fois plus que la durée usuelle de 3 semaines pour 28%. 75,6% pensent qu'une cure 2 fois par an serait nécessaire. Quelle fidélité à la cure thermale ? En termes de fidélité à la cure thermale, 66% de curistes ont l'intention de faire une cure dans les 2 ans, la proportion d'indécis étant de 22,8%. Les raisons évoquées pour une réponse négative étant qu'aucune amélioration ou d'effet durable n'ont été ressentis pour 38% d'entre eux, le coût de la cure étant toutefois la raison première pour un tiers des répondants. Quels sont les éléments importants de l'accueil ? Les qualités de l'accueil par les personnels administratifs et soignants vont majoritairement à une demande d'écoute, de compréhension du médecin thermal en particulier, couplée d'une demande d'écoute concernée, de compréhension face aux troubles exprimés par tous les personnels. Presque à part égale, il est souhaité que le personnel fasse preuve de tolérance face aux troubles complexes des fibromyalgiques, même s'ils ne les comprennent pas. De plus, il est souhaité de la souplesse dans les horaires de soins et qu'un temps de repos soit obligatoire après le déjeuner. Il est clairement attendu des personnels de soins des compétences, tant sur le plan diagnostique que sur la perte de qualité de vie et les conséquences sur l'humeur engendrées par la fibromyalgie. Les éléments importants du contenu de la cure. Concernant le contenu de la cure, les éléments prioritaires du traitement font apparaître tout d'abord un besoin de massage relaxant, dit massage douceur, pour 96 d'entre eux. Il apparaît par ailleurs important que la température soit réglable pour les bains bouillonnants et qu'un temps de repos post-soin puisse exister. À l'occasion de la cure thermale, une prise en charge non médicamenteuse sous la forme de relaxation, de gestion du stress et d'une rééducation progressive à l'effort sont souhaitées à égalité, suivie d'aquagym, de la marche et de la randonnée adaptée. Sur les thèmes d'éducation thérapeutique à privilégier à l'occasion de la cure, c'est un thème qui est aussi très important pour nous, l'ETP, à la question des thèmes à privilégier, la gestion de la douleur et la prise en charge sociale de la fibromyalgie sont en tête des demandes, suivies à égalité par la qualité du sommeil et la compréhension de la fibromyalgie par l'entourage. Que représente la cure thermale dans le cadre de la fibromyalgie ? La cure représente pour 80 fibromyalgies des soins naturels, complémentaires de la médecine traditionnelle, prenant en compte le corps dans son ensemble. Des soins de détente notifiés sans effet secondaire et améliorer la qualité de vie. Quelles sont les autres attentes des fibromyalgies dans le cadre de la cure ? Les attentes plus spécifiques en groupe de parole et d'atelier paraissent importantes, comme permettant de partager l'expérience et de libérer la parole, ou bien encore de participer à des ateliers d'activité manuelle. Par ailleurs, un environnement calme, propice au repos, dans un logement à proximité des thermes est souhaité pour plus de 80% d'entre eux, incluant de plus des transports en commun à proximité des thermes. Ainsi, on peut synthétiser cette première partie par les éléments suivants. Il s'agit d'une majorité féminine, inactive, en raison de la maladie, ayant eu une cure prescrite pour fibromyalgie à la demande du médecin. Moins d'une cure sur 2 a été efficace à 6 mois, mais plus que les médicaments, notamment sur la douleur et entraînant la réduction de consommation d'antalgiques. Les répondants souhaitent des cures plus fréquentes, mais il existe un frein économique. L'attente générale en termes d'écoute, et de compétences des soignants en matière de douleur et qualité de vie est importante. Les fibromyalgiques sont par ailleurs attachés au massage, à l'aquagym, à la gestion du stress, à la rééducation, à l'effort progressive. Il existe une attente forte en matière d'éducation sur la douleur, le sommeil, ainsi que sur la reconnaissance par l'entourage. Au total, la cure est perçue comme de la médecine naturelle, complémentaire, globale, sans effet secondaire. Le second volet s'intitulait « Vous n'avez jamais effectué de cure ». Qui sont donc les 252 répondants fibromyalgiques non curistes? Sur les 252 ayant répondu à ce questionnaire, 94% étaient des femmes. La majorité des répondants avaient entre 30 et 60 ans, mais avec un pic entre 40 et 60. Quel est leur statut social? Il s'agissait majoritairement de personnes actives, 60%, contre 57% dans le premier volet. D'inactifs dans le premier volet. Quelle serait la principale incitation à faire une cure pour ces non-curistes? On retrouve les mêmes incitations à faire une cure sur préconisation du médecin traitant ou du spécialiste ou par décision personnelle. La question était, si vous faisiez une cure, quels seraient les effets pour vous? Dans l'hypothèse d'une cure thermale pour fibromyalgie, ces personnes pensent à 71% que les effets de la cure dureraient plus de 6 mois. Pour mémoire, ils étaient 42,5% à avoir eu un effet prolongé au-delà de 6 mois dans le premier groupe. Et 28,6% que les effets ne dureraient pas plus de 6 mois. Ils étaient 57,5% parmi les curistes à voir l'effet ne pas durer au-delà de 6 mois. 58%, presque 58%, pensent que la cure serait aussi efficace, voire plus efficace pour 33%, soit un total de 91,2% que le traitement médicamenteux, contre respectivement 40 et 37,8%, soit un total de 78% dans le premier volet. Ils souhaitent ainsi voir prioritairement leurs douleurs améliorées, ainsi que leur fatigue diminuer, et ensuite une amélioration de leur qualité de vie. À la question « Envisagez-vous une cure thermale dans les 2 ans ?», 34,5% des 252 répondants pensent envisager une cure dans les 2 ans, mais cependant, 46,8% ne savent pas. 24,7% pensent en effet que le séjour serait trop cher. Et 10,5% par ailleurs ont peur qu'une cure thermale accentue alors leur fatigue. À égalité, les répondants ne savent pas en quoi consiste une cure thermale ou se voient refuser la prescription par leur médecin ou encore ne croient pas à un effet durable. Ce second volet peut être ainsi résumé. Il s'agit d'une population plus féminine, plus jeune, plus active que l'échantillon curiste. Le même crédit est accordé aux mêmes sources d'informations sur les cures thermales. Une perception d'efficacité est toutefois plus importante que chez les curistes, avec un effet situé cependant plus sur la diminution de la fatigue que sur la consommation médicamenteuse. Il n'existe pas de refus de principe de la cure thermale, mais des inquiétudes sur le prix et sur le risque d'aggravation de la fatigue. Globalement, les autres résultats de l'enquête, on constate des attentes similaires entre les deux échantillons concernant l'écoute, la douleur, la qualité de vie et la consommation médicamenteuse. En conclusion, l'association de patients et son site internet permettent de mettre en ligne des enquêtes en santé publique. Par exemple, ici, une enquête d'opinion. Mais il reste cependant à affiner l'ergonomie des questionnaires. Concernant la fibromyalgie et le thermalisme, on peut confirmer un objectif à atteindre qui est de lutter contre la douleur et d'améliorer la qualité de vie et de diminuer la consommation médicamenteuse. On note clairement qu'une attention particulière doit être apportée à la qualité de l'écoute et à la considération apportée aux patients fibromyalgiques. Et j'ajouterai maintenant, puisque nous sommes en plein plan maladie chronique, que nous montons actuellement toujours dans un esprit de partenariat, un projet conforme aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et du plan maladie chronique qui va être mis en application bientôt, nous ayant créé des outils d'évaluation statistique permettant d'apporter des argumentaires sur les services médicaux rendus. Je vous remercie vivement en tant que responsable d'association et fibromyalgique moi-même de m'avoir écouté. Merci.
Le diaporama m'a été proposé par l'équipe du professeur Salamon qui devait présenter ce travail ce matin, qui est un travail essentiellement d'ordre épidémiologique, même si au départ, le travail a été initié par les suites de l'étude StopTag, vous savez, cette étude sur l'anxiété généralisée, qui avait permis de percevoir que la cure thermale était efficace pour traiter l'anxiété. Vous savez que la consommation médicamenteuse des anxiolytiques, essentiellement d'ailleurs des benzodiazépines, qui sont extrêmement fréquemment rencontrées dans notre population, sont évidemment liées à l'état anxieux des patients. Et donc l'hypothèse initiale était de dire, finalement, si les patients sont anxieux, s'ils consomment des médicaments parce qu'ils sont anxieux, si la cure thermale arrive à réduire l'anxiété, on devrait pouvoir arriver à réduire la consommation de ces anxiolytiques chez les patients du moins dépendants ou qui ont une consommation excessive avec une difficulté à arrêter eux-mêmes la thérapeutique, sans difficulté, puisque la cure thermale sera en quelque sorte un traitement compensateur de la réduction médicamenteuse. Et cela peut évidemment rassurer le patient. Il y a également dans la cure thermale beaucoup de produits, autres, on l'a vu tout à l'heure déjà, notamment dans le cadre de la présentation sur la fibromyalgie, qui sont utilisables pour aider le patient et le rassurer sur sa prise en charge afin de réduire son traitement anxiolytique. On en parlera, si vous voulez, en conclusion.
Voilà, donc les benzodiazépines représentent, donc on l'a dit, un traitement extrêmement fréquent. À peu près 24% de consommateurs occasionnels dans notre pays, 11,2% de consommateurs réguliers. Donc c'est un problème très fréquent, il touche à peu près 7 millions de Français. Les anxiolytiques sont les plus souvent prescrits. 140 millions d'euros de dépenses d'anxiolytiques dans notre pays, 105 millions d'euros de dépenses annuelles pour les hypnotiques. Ce sont surtout des femmes. Plus également fréquent chez les personnes âgées de plus de 35 ans, la Haute Autorité de Santé, d'ailleurs, en a fait un des sujets majeurs de santé publique, un des 5 sujets majeurs de santé publique, considérant que, du fait de la iatrogénie médicamenteuse chez les sujets âgés, c'était un problème à l'origine de nombreux problèmes de santé, en particulier les chutes, les accidents de voiture, etc. Et la Haute Autorité de Santé a toute une équipe qui travaille actuellement sur la question de la prise en charge de ces patients. Comment arriver à réduire leur consommation. Il faut savoir qu'au niveau de l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché des médicaments anxiolytiques, les choses sont extrêmement claires. 4 semaines maximum de prescription d'un hypnotique, y compris la phase de réduction thérapeutique, de sevrage, et 12 semaines sur les anxiolytiques. Et comme vous le verrez dans cette étude, on est très très loin du compte. Et c'est effectivement ce que nous rencontrons dans notre pratique, que ce soit, je pense, les généralistes, ou les psychiatres, ou même peut-être d'autres professions. Alors, l'étude a consisté, donc, si vous voulez, notre travail était en 3 niveaux. Le premier niveau, c'était réaliser une enquête épidémiologique auprès des médecins généralistes pour avoir leur avis sur cette question. Le deuxième niveau était monter un protocole type qui pourrait être exploitable en station thermale. Et troisième niveau, peut-on réaliser une étude scientifique à partir de ces éléments-là? On va surtout parler de l'enquête épidémiologique ce matin, mais on pourra en conclusion dire un mot du reste. Alors, l'objectif de cette étude épidémiologique, réalisée donc avec l'équipe du professeur Salamon, était donc de voir la faisabilité de l'évaluation de la cure thermale, et c'était également d'avoir des informations précises sur le nombre de patients concernés et l'avis des généralistes sur cette question de la cure thermale prenant en charge le sevrage thérapeutique. Alors, la chose a été assez simple, c'était une étude transversale réalisée auprès des médecins généralistes. On a donc récupéré les dossiers Adélie des médecins généralistes via la DRAS d'Aquitaine. On a récupéré donc les 66 000 médecins. On a tiré au sort 2000 médecins représentatifs du groupe de tous ces médecins généralistes français, et on leur a envoyé un questionnaire dont je vais vous parler maintenant qui nous a permis d'avoir des informations précises sur leur pratique ou leur perception du problème. Bon, le questionnaire patient, on va le voir ici, a répondu à un certain nombre de questions. Quelle est l'indication Donc, vous voyez, le médecin généraliste était face à avait une journée de consultation normale. Et au cours de sa journée, dès qu'il avait un patient qui consommait des benzodiazépines, il s'arrêtait et il mettait le sexe, l'âge du patient, l'indication de est-ce que c'est pour un anxiolytique ou un anxiolytique qui était prescrit ce médicament, l'ancienneté de la prescription, savoir s'il s'agissait d'un traitement continu ou occasionnel, savoir si ce traitement avait déjà été, on avait déjà essayé de réduire ou d'arrêter ce médicament dans le passé, savoir si le médecin pensait qu'il y avait intérêt à le réduire maintenant, si le malade était prêt à le faire, donc on
poser la question en principe au malade de savoir s'il était intéressé pour le faire, savoir si le malade avait déjà fait une cure thermale, quelle que soit la cure thermale, et puis également savoir si il pensait que la cure thermale pourrait être intéressante dans son cas, dans un but de sevrage thérapeutique. Et puis on posait également quelques questions plus personnelles sur la pratique du sevrage thérapeutique auprès du médecin généraliste. Donc on a eu donc un groupe représentatif, on va passer là sur ces petits éléments, là c'est tout à fait intéressant, ce sont les résultats de cette étude. Donc vous voyez, on a 66 000 médecins généralistes au départ, 2 000 en fait ont été sondés, 353 réponses, dont 53 non valables, donc on a 300 réponses au questionnaire, ce qui représente 15% de l'ensemble du groupe, et on a 281 questionnaires complets. Donc 200 médecins généralistes ont pu répondre à l'ensemble de ce questionnaire. Et on voit là un chiffre apparaître de 187 patients, ce qui signifie en fait le nombre de patients. Si vous voulez, les généralistes ont grossièrement mis 3 patients sur leur petite fiche qui correspondaient aux 3 malades qu'ils avaient vus dans la journée, ce qui fait un total de 997 patients traités par benzodiazépine, donc au cours de cette journée, par ces 300 médecins généralistes. Bon, pas de surprise sur les médecins généralistes, on était dans les critères habituels. On va s'intéresser plutôt aux patients. Qui sont-ils, ces 957 patients? Eh bien, ce sont surtout des femmes, ce qui n'est pas surprenant. Dans ce domaine, c'est ce qui est connu, 68% de femmes. Les anxiolytiques sont les plus prescrits, hein, 53% de prescriptions d'anxiolytiques, 33% d'hypnotiques, le reste étant une combinaison des deux. Le traitement dans l'ensemble continu, 70% des patients ont un traitement continu. L'âge est de 66 ans en moyenne, ce qui correspond relativement à ce qu'on attendait, peut-être un peu plus âgé peut-être, on aurait pu penser. Et surtout, ce qui est intéressant, le délai depuis l'introduction du médicament est de 4 ans. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est largement en dehors des normes de prescription reconnues, recommandées, puisque on ne devrait pas dépasser 12 semaines pour les anxiolytiques et 4 semaines pour les hypnotiques. On est à 4 ans en moyenne et encore, dans bien des cas, les médecins étaient approximatifs car ils ne savaient plus trop quand ça avait commencé. Quand on regarde également les patients à qui on a proposé l'arrêt ou la réduction des médicaments, 63%, pratiquement deux tiers, ont déjà essayé sans succès manifestement. Lorsqu'on demande s'il y a actuellement une indication à la diminution ou à l'arrêt des médicaments, un tiers des médecins considèrent que oui, il y a un intérêt à réduire la consommation, à sevrer. On imagine d'ailleurs que ce chiffre a été un peu bas parce que c'est peut-être un peu difficile pour le médecin de reconnaître qu'il ne fait rien alors qu'il pense qu'il faut faire quelque chose. Donc on peut imaginer que le chiffre est un petit peu inférieur à ce qu'il devrait être. Le souhait exprimé par le patient par rapport à cette question du sevrage est intéressant. 17% donc des patients, sur le moment, immédiatement, ont répondu manifestement oui à « je devrais arrêter mes médicaments et je souhaite le faire ». Ce patient a-t-il déjà été en cure thermale? Donc on a 7% des patients qui ont fait une cure thermale, quelle que soit l'indication. Hein, ce n'est pas particulièrement par rapport à la cure sevrage, évidemment. Et ce patient est-il susceptible d'aller en cure thermale? Eh bien là, je trouve que la réponse est intéressante également. 17% des patients seraient, a priori, susceptibles pour le médecin de faire cette cure thermale. Je vous rappelle que cette cure thermale n'existe pas en pratique actuellement, puisqu'il n'y a pas d'indication pour le sevrage thérapeutique. Voilà. En moyenne, donc 3,4 patients par médecin généraliste ont été donc recrutés sur cette journée d'évaluation. Donc c'est pas rien, ça représente à peu près 15% de leur activité. Alors, population cible pour la diminution, ça oui, ça c'est intéressant. On va ici s'intéresser aux 911 patients traités par benzodiazépine pour lesquels il y a eu effectivement tous les critères qui ont été récupérés dans les questionnaires. Alors, on s'aperçoit déjà que 87% pratiquement des patients sont des consommateurs excessifs, en durée, hein, ça vous l'avez compris, que 29% des patients ont à la fois une durée excessive de prescription de médicaments et en plus ont une indication à réduire, d'après le médecin généraliste, leur consommation médicamenteuse, et encore plus intéressant à mon avis, 4,2%, c'est faible, mais c'est quand même, vous allez voir, beaucoup, ont à la fois une durée excessive de médicaments par rapport à la recommandation à eux-mêmes, ont également une diminution ou un arrêt indiqué par le médecin généraliste considère qu'il faut réduire la consommation, et en plus, ils souhaitent eux-mêmes, les patients, arrêter leur consommation. Et ils ont en plus un traitement continu. Donc il y a vraiment un besoin, une nécessité et un souhait du malade exprimé. Donc 4,2% de l'ensemble des patients du départ représentent donc une indication manifeste, indiscutable, à une solution qu'on n'a pas. Et quand on extrapole au plan national, eh bien on s'aperçoit que vous verrez sur la droite les chiffres qui sont indiqués. C'est en fait le nombre de patients, c'est plus autour des 300 médecins qui ont été récupérés, c'est au niveau des 66 000 médecins généralistes potentiels prescripteurs. Et là, on a fait donc une évaluation en extrapolant, en imaginant que ce groupe de 300 malades, de médecins, pardon, représente l'ensemble de ce que se passe dans toute la médecine générale en France. Eh bien, on a un potentiel de 1 131 000 par semaine patients qui sont traités par une benzodiazépine, 843 000 patients par semaine qui ont une durée de prescription supérieure aux recommandations reconnues. Et on va aller au dernier chiffre. Pratiquement 50 000, c'est-à-dire 47 189, presque 50 000 patients par semaine, qui ont à la fois donc une durée de traitement supérieure aux recommandations, une diminution ou un arrêt de traitement indiqué par le médecin généraliste et un souhait exprimé par eux-mêmes de réduire la consommation. Donc vous voyez, on a manifestement un potentiel important. Alors, on a également interrogé les généralistes sur quelques questions un peu générales. Celle-là est assez normale. Hein, c'est les médecins généralistes considèrent les plus aptes à prendre en charge cette problématique, 85%. Parce qu'ils ont la connaissance du patient, ils sont proches d'eux, les malades ont confiance en eux, etc. Certains pensent que ce n'est pas eux, que justement il faut faire confiance à d'autres acteurs de santé, notamment tous ceux qui sont du domaine de la psychothérapie, on en parlera juste après. Alors là, cette diabolité est intéressante. On a essayé, là, si vous voulez, d'interroger le médecin donc, sur sa perception du problème. Vous voyez en jaune ceux qui pensent que l'approche qui est indiquée sur la gauche est une approche qui est vraiment favorable à la réduction, du sevrage. Et vous voyez en bleu ciel celles pour lesquelles il n'y a pas d'indication. Alors, on est un peu déçus, nous, en cure thermale, de voir qu'on est les moins importants en termes de reconnaissance, puisqu'on est à peu près 10% de oui auprès des médecins généralistes. Et on pourrait être négatif par rapport à ça. On peut regarder une petite couleur. On peut regarder le vert et on s'aperçoit qu'on est de loin ceux qui avons le plus de pourquoi pas, ce qui signifie qu'en fait les médecins généralistes qui connaissent pas cette indication puisqu'elle n'existe pas, elle n'est pas offerte aux patients et aux médecins, eh bien sont tout à fait conscients, enfin tout à fait ouverts en tout cas à l'idée qu'on puisse réaliser ce type de prise en charge à 50%. Et si l'on rajoute à cela ceux qui sont favorables et ceux qui sont dans le je ne sais pas, on est à 85% de patients, de médecins pardon, qui pensent que pourquoi pas, ou je ne sais pas, ou oui, il faut proposer ça au cure thermale. On remarque également qu'il y a un fort pourcentage de médecins qui sont favorables au soutien psychologique, qui sont favorables aux psychothérapies de soutien, qui sont favorables au suivi multidisciplinaire coordonné par des médecins généralistes et également par les thérapies cognitives ou comportementales. Tout ça peut bien sûr être apporté dans le cadre des cures thermales sous forme de protocole. On remarque enfin qu'il y a peu de médecins qui sont favorables à la prise en charge par des spécialistes des addictions, ce qui a été quand même une surprise parce qu'a priori c'était quand même un élément intéressant puisque le sevrage thérapeutique c'est le problème de l'addiction. C'est une étude intéressante, prévalence de la consommation des benzodiazépines 15%, ça c'est à peu près ce qu'on retrouve au niveau national. 86% donc de traitements supérieurs à leurs recommandations, un réindiqué pour 30% des médecins. L'élément intéressant c'est qu'il y a un paradoxe, les généralistes sont disent les mieux placés pour aider les patients à diminuer ou arrêter les benzodiazépines, en réalité c'est eux qui prescrivent. Et on s'aperçoit que manifestement, ils n'arrivent pas à réduire eux-mêmes la consommation. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment dans une honnêteté par rapport à ça? Est-ce que c'est un problème de moyens, de temps, de formation? En tout cas, le problème est tout à fait ouvert. Et ils ont également une ouverture pour envisager des prises en charge psychothérapie complémentaires de leur prise en charge. Et également, pourquoi pas, les cures thermales. Donc, étude portant sur 957 patients. 15% des patients ont un traitement en cours. Si on fait une extrapolation au plan national, on a 4,2% des patients consommateurs réguliers qui ont toutes les indications pour mettre en place un sevrage rapide. Un potentiel théorique donc de près de 50 000 patients par semaine, on a de quoi remplir notre station thermale pendant quelques années. Et en résumé, donc, il existe un besoin en termes de santé, une adhésion potentielle des médecins. Et nous, ce que nous proposons, si vous voulez, dans le cadre de ce travail qui nous semble tout à fait intéressant et porteur d'avenir, Nous pensons que, il faudrait mettre en place, et je pense qu'on va le réaliser cette année auprès des stations psy, un protocole, le protocole existe, mais il faudrait le mettre en place maintenant, donc un protocole structuré adapté à la cure thermale, vérifier bien sûr sa faisabilité technique, et puis évaluer les résultats thérapeutiques obtenus à l'issue de cette mise en place de protocole. Je vous remercie. Je crois que la question du tabac est peut-être un tout petit peu différente. C'est vrai qu'on est dans un problème d'addiction dans les deux cas. Et c'est le processus au niveau de l'addiction est le même, sans doute, enfin le même. C'est pas la même addiction, mais c'est la même idée de l'addiction. Je pense que le problème du tabac est peut-être un problème moins médical, au sens vraiment proprement médical, que le problème du sevrage des médicaments psychotropes, parce que les psychotropes, il y a vraiment, je dirais, des implications médicales qui sont lourdes. Il faut savoir aussi que dans la consommation des psychotropes, très souvent, il faut savoir qu'il y a un anxieux qui est derrière, et un anxieux malade. Ce n'est pas toujours le cas du tabac. Est-ce que dans le tabac, on est vraiment dans de la pathologie? Il y a des cas, certainement. Il y a des cas, c'est peut-être moins évident. Donc je pense qu'il faut faire... Et vous voyez, quand j'avais, au début, avec Roger Salamon, on avait pensé faire une espèce d'étude multi-addiction. Et en réalité, on s'est rendu compte que les universitaires n'étaient pas du tout d'accord pour entrer dans cette logique-là. Il fallait faire l'addiction sevrage psychotrope, et après, on pourrait évidemment décliner, mais avec d'autres spécialistes, sous une forme sans doute un peu plus atténuée au niveau de la prise en charge, sur le sevrage tabac. Je pense qu'il faut vraiment y aller par étapes et cibler chaque problème, avec sans doute même des universitaires différents. On ne peut pas, je crois, se passer de cette démarche un peu par approche progressive, en sachant quand même que les problématiques sont à peu près les mêmes, que les groupes psychoéducatifs seront à peu près les mêmes, que la TCC est très efficace dans tous ces domaines, que le groupe de patients homogène est très important, on le sait, dans les problèmes d'addiction, que la station thermale aura un rôle considérable, que l'eau, si elle calme l'anxieux, elle calmera aussi l'anxieux tabagique. Enfin bon, on aura beaucoup, beaucoup de points communs, hein, ça c'est sûr. Le travail pour le tabac sera, à mon avis, facile à faire après.
Professeur Rock, Madame et Messieurs, merci beaucoup pour the amable invitation. Et je ne parle pas français. Excusez-moi. I only speak Italian, of course, and English. And I will use English in my presentation.
Je ferai une traduction simplifiée des propos de Monsieur Vital pour ceux d'entre vous dont l'anglais n'est pas aussi parfait qu'ils le souhaiteraient.
Right. I'm basically a basic scientist. So we work on hydrogen sulfide. We have been working on hydrogen sulfide for 3 or 4 years now. And we have obtained, I think, and published the results that are potentially of potential clinical interest for thermalism.
Alors le professeur Vital et son équipe travaillent depuis 3 à 4 ans sur l'ion hydrogène sulfuré avec des résultats de travaux dont l'intérêt pour le thermalisme sont réels.
As you may know, hydrogen sulfide together with nitric oxide NO and carbon monoxide CO is one of the three now well accepted and well known so-called gasotransmitters, substances that can act on cells and transmit signals and do something on cells, convince the cells to do something.
Donc l'hydrogène sulfuré est à l'heure actuelle une molécule qui est acceptée comme étant capable d'agir sur le métabolisme des cellules.
You can see there the hydrogen sulfide concentrations that can be measured in plasma, because human plasma, because our cells in our organisms are themselves able to synthesize hydrogen sulfide.
Le taux d'hydrogène sulfuré qui est présent dans notre sang se situe dans des zones où il est dans la capacité d'avoir des effets biologiques.
Nevertheless, hydrogen sulfide is lipophilic And if we are exposed to hydrogen sulfide, like during several thermal treatments, for instance, of the airways, then our cells absorb hydrogen sulfide that we can find, as you can see at the bottom of the slide, we can find in a sort of equilibrium, and what we call sulfide is 20% H2S and 80% in our blood, 80% HS-.
Donc l'hydrogène sulfuré qui va s'accumuler pendant les traitements thermaux, particulièrement des voies respiratoires, va se répartir ensuite dans les divers compartiments du corps, notamment dans le sang.
Our cells are able to synthesize hydrogen sulfide, and we have two different enzymes with different tissue distribution. One, mainly the CBS, is mainly in the central nervous system, and CES produces hydrogen sulfide in several other tissues, including liver, including kidney, and in erythrocytes. So we can ourselves produce, and our body needs an endogenous production of H2S.
Notre corps possède l'équipement enzymatique qui permet la production d'hydrogène sulfuré dans la plupart des tissus, en particulier dans le cerveau, mais également le système cardiovasculaire, le foie, par exemple.
And I will not go into the complicated biochemistry of these enzymes, but basically homocysteine and cysteine are the substrates that are metabolized by these enzymes to produce H2S.
Donc ce sont deux acides aminés, l'homocystéine et la cystéine, qui sont les cibles qui vont permettre de produire l'hydrogène sulfuré.
Only one thing I want to take out from this slide in the center, you can see that starting from homocysteine, you end up with H2S, and really demonstrated main effect of H2S on our cells is on potassium ATP controlled ion channels, that's K-ATP channels, and this operates particularly on smooth muscle cells of cardiovascular system and arteries.
Alors le ion hydrogène sulfuré a une cible particulière au niveau des cellules, ce sont les canaux d'échange potassique, et ceci est particulièrement net au niveau du système vasculaire.
One of the main problems now is currently is to measure, biochemical problem, is to measure exactly the levels of H2S that circulate in our plasma, because there are several methods, spectrophotometric methods, and basically electrochemical methods that are not enough precise. So we don't know exactly what are the levels of H2S or sulfides in general that are around our blood at this position of our cells.
Alors, il est nécessaire de connaître le taux d'hydrogène sulfuré qui est présent dans notre sang, mais les méthodes dont nous disposons ne sont à l'heure actuelle pas suffisamment précises pour avoir une connaissance adéquate.
And you can see from this slide, this is from Biochemical Biophysical Acta this year, the progress, just look at the height of the histograms and the years before 2000 and coming to 2009, the reported measured concentrations of H2S in blood. You see the increase. This is due only to the more precise, progressively more precise methods of measurement.
Alors les méthodes deviennent plus précises et on connaît mieux le rôle de l'ion hydrogène sulfuré depuis ces 10 dernières années.
What happens, whatever the concentration, what happens to sulfides when they circulate in plasma? Well, this is another problem, because it has been clearly demonstrated that when you inject intravenously in animals, in laboratory animals, hydrogen sulfide donors, they stayed there less than 11% of hydrogen sulfide remains in the blood after 5 minutes because it's lipophilic and it goes out inside the erythrocytes and outside the blood and it goes into the tissues and it is used by the different cell tissues.
Quand on injecte de l'hydrogène sulfuré dans le sang d'un animal de laboratoire, il va très rapidement se fixer aussi bien sur les protéines du plasma que sur les érythrocytes et il va pratiquement disparaître à l'état libre gazeux.
We can use, however, in laboratory studies with isolated cells and cell cultures, we can use compounds that donate sulfides. The more convenient one is sodium sulfide. It's relatively stable in solution, and we can add sodium sulfide to our cell cultures. For instance, I'll show you something in a minute with blood cells, mainly polymorphonucleates. I mean neutrophils. Lymphocytes and then at the end keratinocytes in culture because this has something to do with immunological reactions and skin reactions to sulfurs.
Alors on dispose à l'heure actuelle de produits qui lorsqu'on les additionne à des cultures de tissus vont être capables de produire de l'hydrogène sulfuré et ceci aussi bien au niveau des éléments figurés du sang, érythrocytes ou leucocytes, que d'autres cellules, en particulier les kératinocytes, qui ont un rôle extrêmement important dans les lésions cutanées.
Of course, hydrogen sulfide has several potential therapeutics and this is a 2 years ago Nature review. Which title is self-explanatory, Hydrogen Sulfide and its Therapeutic Potential. Of course, many of the science and the reviews that come out in these 2 years, last years, on this issue, mainly refer to endogenous production of H2S. But however, the natural resources, when they contain sulfides, since it's lipophilic, they can increase, at least temporarily, the concentration in plasma of this really active compound.
Alors, la très grande revue scientifique Nature a consacré il y a 2 ans un éditorial au rôle thérapeutique de l'hydrogène sulfuré, en se basant essentiellement sur la production endogène, c'est-à-dire par le corps lui-même d'hydrogène sulfuré, mais la possibilité d'apporter de l'hydrogène sulfuré de l'extérieur est évidemment également un axe thérapeutique important auquel, bien entendu, le monde thermal est intéressé.
Now I will show you some of our data, and there will be a lot of histograms, but I will try to explain everything. Hydrogen, so what we have done with sodium sulfide added first to our blood cells in culture, fresh blood cells in cultures, and then on keratinocytes in culture. The first type of cells that we studied are neutrophils and then lymphocytes.
Donc l'équipe du professeur Vital va maintenant exposer les travaux apportés sur l'action de l'hydrogène sulfuré sur les éléments figurés du sang, globules rouges et globules blancs, également sur d'autres types de cellules, notamment sur les kératinocytes.
The first thing that we demonstrated 1 year and a half ago, 2 years ago maybe, is that hydrogen sulfide prevents apoptosis, programmed cell death of human polymorphonucleates via inhibition of P38 and caspase 3. P38 is an enzyme that activates another enzyme, an enzyme called caspase 3, who at the end cuts DNA in the cells and generates programmed cell death. And then this we demonstrated on polymorphonucleates. And on the contrary, we demonstrate that the same hydrogen sulfide at the same concentrations generates the death by necrosis of lymphocytes, some subsets of lymphocytes, which are relevant in the pathophysiology of several diseases.
Alors ce qu'a montré l'équipe du professeur Vital, c'est que d'une part,
l'hydrogène sulfuré était capable d'augmenter la capacité des cellules à lutter contre la mort programmée cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose, concernant des cellules normales, et que, de la même manière, l'hydrogène sulfuré était à même de favoriser la destruction de cellules impliquées dans les mécanismes de défense, mais ayant un caractère agressif pour les autres cellules de l'organisme, ce qu'on appelle les lymphocytes cytotoxiques.
I hope that you can see the red here, because it's a little bit out of focus. Can you see the arrow here? Because there's a lot of light. Okay, just concentrate on this first histogram and look at the histogram with the open dots. This is the cell viability of granulocytes in culture when they are cultivated, exposed to increasing concentrations of hydrogen sulfide. You see that in the presence of hydrogen sulfides, more and more cells stay alive in culture. When we look at the lymphocytes, this is the black dots, the lymphocytes behave at the opposite. They tend to die in culture in the presence of hydrogen sulfide.
Alors quand on soumet la culture de tissu à des doses croissantes d'hydrogène sulfuré, on voit deux phénomènes inverses. L'un, le nombre des cellules normales, les polynucléaires neutrophiles, qui augmentent, et les cellules agressives, les lymphocytes, dont le nombre diminue.
This effect in polymorphonucleate cells can be abolished by this chemical here, LY29. This is a nickname, LY29. This is an inhibitor of an enzyme, a specific enzyme called PI3 kinase, which is one of the most active enzymes in the surviving pathways of the cells. So if we inhibit that enzyme, we abolish the pro-surviving effect generated by H2S on polymorphonucleates.
Donc si on bloque l'enzyme qui favorise l'action de l'ion hydrogène sulfuré, on va abolir cet effet de protection cellulaire.
When we analyze by Western blot the protein levels of specific enzymes that are on this pathway, just look on this one. It's difficult to see it. You see here there are two bands, where it's 6 hours in the absence of hydrogen sulfide, you can see two bands, and on the right-hand side there is only one band. The cleavage of that enzyme that is called caspase-3 is the key point of cell death. In the presence of sulfide donors, we inhibit the cleavage of that enzyme, which keeps this inactive, and the cell survives.
Donc le rôle clé, c'est celui de cette enzyme, la caspase, dont l'inhibition va bloquer les effets de l'hydrogène sulfuré.
So the idea, the data show that if we take polymorphonucleate cells out of the blood, put them in culture, we leave them as in, of course, in medium, they live, let's say, 24 hours, and we have a certain percentage of death. If we add hydrogen sulfide, they live more. They survive more. The next question was, and we know why, the next question was, if they survive more, are they still active in their antibacterial activity?
Alors la question qui se pose, c'est de savoir si ces cellules dont la durée de vie est augmentée gardent une effectivité sur le plan biologique.
The answer is yes. Hydrogen sulfide does not decrease their activity. In fact, these are E. coli, Escherichia coli plates in the absence of neutrophils, in the presence of neutrophils, and in the presence of neutrophils treated with NHS. You see, no more colonies of E. coli in so they survive more and they kill more the bacteria.
Alors là, il nous présente une expérience sur une culture de bactéries des colibacilles. On voit sur l'image de gauche que les colibacilles poussent très largement. Si on y ajoute des polynucléaires, leur nombre diminue fortement. Et si on ajoute de l'hydrogène sulfuré, c'est le rond de droite, on voit que le nombre de bactéries continue à diminuer, c'est-à-dire que l'activité des polynucléaires continue après avoir reçu l'hydrogène sulfuré qui prolonge leur durée de vie.
This is, we believe, the main cellular point of the non-anti-inflammatory, short-time anti-inflammatory effects of hydrogen sulfate.
Nous pensons, le professeur Vital et son équipe plus exactement, que l'action anti-inflammatoire à court terme du lion hydrogène sulfuré est liée à ce mécanisme d'action sur les polynucléaires neutrophiles.
I hope we can share this opinion. briefly going on to the very essence of the thing. This is the second part of the study that concentrated on lymphocytes, the other major player of immunity. What happens differently from polymorphonucleates, the addition of hydrogen sulfide to lymphocyte isolated from blood induces cell death. The key point that I will show you is that not all lymphocyte subsets are sensitive in the same way to hydrogen sulfide.
Alors le deuxième volet que va nous présenter maintenant le professeur Vital, c'est celui de l'action de l'hydrogène sulfuré sur les lymphocytes. Il nous a montré tout à l'heure qu'il y avait une diminution des lymphocytes, mais il va maintenant nous montrer qu'il ne s'agit pas d'une diminution aveugle au hasard, mais bien une diminution ciblée qui s'exerce sur les lymphocytes qui sont toxiques pour nos cellules.
The toxicity of hydrogen sulfide on lymphocytes is mainly delivered in mitochondria because H2S binds to enzymes contained in mitochondria, and in fact there is a loss of mitochondrial potential, transmembrane mitochondrial potential. This is the way hydrogen sulfide kills lymphocytes.
Alors la manière dont l'hydrogène sulfuré a une action toxique sur certains lymphocytes, c'est d'agir sur le système respiratoire de la cellule, qui est le système mitochondrial dans lequel il s'incorpore.
The main thing is that, apart from technical details, you know that T lymphocytes, we have T lymphocytes, B lymphocytes, and natural killer cells. Natural killer cells are anti-tumor and antiviral, and T lymphocytes are mostly divided in helper T lymphocytes that are CD4 positive, and cytotoxic T lymphocytes that are CD8 positive. The toxicity of H2S is mostly concentrated on the cytotoxic subsets of lymphocytes, that is NK cells and CD8 cells.
Il y a plusieurs types de lymphocytes. Certains sont utiles et nous protègent notamment des infections à virus comme des cancers, et d'autres, dans une grande famille de lymphocytes qui s'appelle les T-lymphocytes, ont une action extrêmement agressive. Ce sont des cellules tueuses ou des cellules cytotoxiques qu'il faut contribuer à faire disparaître, et c'est une des cibles de l'hydrogène sulfuré.
Which means that on one side hydrogen sulfides promote short-term survival of neutrophils, which means physiopathologically means higher possibilities of resolving acute inflammatory processes. On the other side, it kills T lymphocytes and NK cells, which are the major players of chronicization or chronic inflammation, let's say.
L'hydrogène sulfuré, finalement, agit sur les deux volets de l'inflammation, sur la phase aiguë de l'inflammation par le biais des polynucléaires neutrophiles dont il augmente le nombre, et sur la phase chronique de l'inflammation en agissant sur les lymphocytes qui sont les facteurs d'entretien de cette inflammation et qui sont à l'origine d'un certain nombre de maladies chroniques particulièrement importantes.
last part of my talk deals with keratinocytes. Why keratinocytes? Keratinocytes are widely distributed in our body, but we concentrated on skin keratinocytes for the obvious implications of thermalism with psoriasis.
La troisième type de cellule sur laquelle on portait leurs travaux, c'est le kératinocyte, qui est une cellule très largement répandue dans le corps, mais qui est surtout importante au niveau de la peau et qui est à l'origine, dans son dysfonctionnement, d'un certain nombre de maladies cutanées, au premier rang desquelles le psoriasis cutané.
One first thing is that hydrogen sulfide kills CD8 T cells also in the deep layers of skin. Because hydrogen sulfide can penetrate the skin.
Alors, l'hydrogène sulfuré peut pénétrer à travers la peau après une administration externe et y exercer des lésions toxiques sur certaines formes de lymphocytes qui sont à l'origine des phénomènes qui produisent le psoriasis.
Moreover, if you see the two plates and forget the rest, only look at the two plates on the left-hand side here, you have keratinocyte colonies in the absence of hydrogen sulfide addiction. You cultivate these cells and they proliferate. But if you add H2S, then almost no colonies can be found anymore. There is a profound, a deep, a complete inhibition of the proliferative activity of keratinocytes in vitro.
Donc il faut que vous vous centriez sur les deux ronds qui représentent des plaques de culture de tissu. Sur le rond de gauche, c'est des kératinocytes qu'on a mis en culture qui spontanément se développent beaucoup. Et sur la plaque de droite, vous voyez qu'il n'y a plus, pratiquement plus de colonies, il n'y en a plus que trois petites, mais entre-temps, on a ajouté de l'hydrogène sulfuré et on voit bien qu'il bloque cette prolifération kératinocytaire.
This, through a complicated series of experiments that you can see here, I go quickly and then the presentation is here. The main thing that I want to tell you is that using different pharmacological inhibitors of different enzyme pathways, we discovered that hydrogen sulfide inhibits proliferation of keratinocytes by the inhibition of a category of enzymes, ubiquitous category of enzymes, called MAP kinase, which means mitogen activated kinases.
L'équipe du professeur Vital a pu montrer que l'ion hydrogène sulfuré agit à travers la production d'un certain nombre d'enzymes qui sont susceptibles d'agir sur les kératinocytes.
And it inhibits all the pathway of signaling. This is the last point. This inhibition, so we have keratinocytes. We take keratinocytes and put them in culture. If we leave them, the keratinocytes there with growth factors, they grow. If we add the hydrogen sulfide, they do not grow anymore. Why? Because hydrogen sulfide acts directly on a signaling pathway of the cell that is essential for proliferation. Why it is essential for proliferation? Because the inhibition of this pathway down-regulates on the keratinocyte the expression of surface molecules called integrins that are needed to anchorate, to position the keratinocyte in the skin.
Alors, le rôle bloquant de l'hydrogène sulfuré se fait à travers une inhibition de la mobilisation cellulaire et empêche leur fixation sur les zones où elles peuvent se développer à travers des mécanismes enzymatiques complexes qu'ils ont pu explorer à l'aide de systèmes d'action pharmacologique sur les diverses enzymes qui agissent sur le métabolisme des cellules cutanées.
And these are the molecules that are inhibited. So the conclusion is that H2S impairs cell growth of keratinocytes by reducing that metabolism, and then the reduction of this metabolism inhibits the expression of laminin 5 receptor and collagen 1 receptor that are essential for the keratinocyte to to stay there and live in the deeper layers of the skin. So the keratinocyte is disoriented and cannot home, the process of homing of the keratinocyte is abolished.
Alors finalement, il présente une image qui est très, très subtile. Il dit l'action de l'hydrogène sulfuré aboutit à désorienter le kératinocyte qui ne sait plus véritablement où se loger sur la peau et qui ne trouvant pas de logement est bien disparaît.
And this is the last slide. This is one psoriatic patient. This is the one that I added.
Yes.
This is the first two, the first four at the and the top is a psoriatic patient, and at higher magnification, without very top two panels, show the expression of these enzymes, the brown colorish of the cells, shows the expression of these enzymes in the deep layers of the skin from a psoriatic patient. If you treat the psoriatic lesion with sulfide donors, you decrease strongly the expression of this enzyme. This is in vivo, what we see in vitro. And at the bottom is the normal skin, where you almost do not have the expression of this enzyme in the normal skin.
Alors le document qu'il nous présente est un document de peau soit normale, soit de patient psoriasique. Et ce qu'il faut voir, c'est que la partie haute est celle d'un patient psoriasique et que la coloration marron sur l'image de droite traduit la présence en quantité importante de cette enzyme qui permet la localisation des kératinocytes et donc permet leur nidation en quelque sorte, et que lorsqu'on a soumis à l'hydrogène sulfuré, on voit que la coloration marron sur la plaque de droite qui est au milieu a beaucoup diminué. Donc cette substance qui permet cette nidation de la kératinocyte a fortement diminué, et ceci fait que sur l'image de gauche, on voit que les lésions cutanées sont nettement moins proliférantes et nettement moins inflammatoires. Et si l'on compare avec une image de peau normale qui est sur la colonne du bas, on voit que l'expression de cette enzyme est extrêmement faible, puisqu'il y a très peu de coloration marron.
So the only thing that I want to say is that I think that we all believe that at least part of the research in thermalism should address the intimate mechanisms of action of the main principles, natural compounds that are almost treated as pharmacological compounds. Thank you.
Ce que nous a dit M. Vital dans son dernier message, c'est qu'il fallait également avoir en médecine thermale une approche de type pharmacologique pour apprécier l'action moléculaire des composés apportés par les produits thermominéraux aux patients que nous traitons. Merci, Monsieur Vital.
This is a really good question. The question is how much hydrogen sulfide donor do we add to our cell cultures to obtain these results? It's 1.83 millimolar. And why 1.8? Little bit less than 2 millimolar. Why this? Of course, we did several experiments as a concentration kinetic studies to choose this concentration. And we ended up with this concentration because it's very close to the concentration of the hydrogen sulfide found in natural compounds, particularly during ENT insufflation.
La réponse que vient de faire le professeur Vital, c'est que la quantité d'hydrogène sulfuré qu'il a ajouté aux cultures de tissus correspond aux quantités qui représentent celles dans les tissus normaux, et en particulier à celles qui sont apportées par les traitements thermaux utilisés dans les voies respiratoires.
The concentration of hydrogen sulfide that is commonly used in to which the patients or the subjects are usually exposed during a thermal treatment is the same, basically as an average, is the same that we add to our cell cultures. Since sulfides freely diffuse through the mucous cells, we can assume that the same concentration is found for a few minutes in the, for instance, in the nasal mucosa and the upper respiratory tract mucosa when the patient does his therapy. And of course, the same effect, we shall see the same effects. A prolonged living of polymorph granulocytes, which helps resolving the acute phase of inflammation, and at the same time an inhibition of the cytotoxic population subsets of lymphocytes, which somehow prevents the chronicization, it's a difficult word for me, the chronicization of the infection itself.
Alors la question qui était posée au professeur Vital était les applications cliniques de ce qui a été démontré sur le mécanisme de survie cellulaire. Et le professeur Vital a répondu que dans la mesure où dans leurs études de type expérimental, ils avaient utilisé les concentrations qui correspondent à ce que délivrent les traitements thermaux dans une pathologie comme par exemple la pathologie des voies aériennes supérieures. Il y a à la fois l'effet anti-inflammatoire immédiat qui est apporté par l'action positive de l'hydrogène sulfuré sur les polynucléaires neutrophiles qui favorisent la résolution des phénomènes aigus que présentent ces patients. Et en même temps, cet hydrogène sulfuré qui a pénétré à l'intérieur des muqueuses respiratoires va agir sur les mécanismes chroniques qui ont été activés à travers la détérioration qui va se produire sur ces lymphocytes toxiques qui sont à l'origine de l'entretien des lésions des muqueuses respiratoires.
Chemical forms of sulfides in general. That can be found in our body, whatever the endogenous, whatever the production is endogenous or exogenous of hydrogen sulfide is 20%, as I showed, 20%, around 20% of H2S and 80% of HS minus. Collectively, these two species, chemical species, are called sulfide, collectively, and they make together 100%. No S2 minus can be found, which is the other chemical form, potentially. That's only a laboratory chemical form. It's absent in our body.
La question qui était posée, c'était de savoir s'il n'y avait pas une transformation de l'hydrogène sulfuré dans le corps, dans un composé qui serait plus inactif. La réponse du professeur Vital est que même s'il y a plusieurs formes dans le corps, les formes qui sont présentes restent fondamentalement actives.
In fact, one of the two main enzymes, CBS namely, that produce, that mediate the production, endogenous production of sulfides in our body, is localized, is tissue localized in the central nervous system. And in fact, actions of retardation, of prevention of dementia or whatever dementias can be generated upon processes of demyelinization or neuronal cell death, H2S has been implicated with a positive effect. I have never personally done any experiment with neurons because we do not cultivate neurons in our laboratory because I'm an hematologist, and this is why we mainly use, but I know from the literature, and there is plenty of literature available. Also, one thing on neurons not connected with neuronal cell death and neither with dementia, H2S is also implicated, as far as I read in the literature, with long-term potentiation of synapses functioning with that means with memory fixation.
Alors la réponse du professeur Vital est que le cerveau contient un enzyme capable de générer de l'hydrogène sulfuré, que l'effet préventif sur la détérioration des cellules nerveuses et en particulier sur leur fonctionnement synaptique a été étudié, qu'il est quant à lui fondamentalement un immunohématologiste et qu'il n'a pas d'expérience personnelle dans ce domaine.